anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ce dernier verset sur lequel nous allons nous arrêter. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà une déclaration extrêmement forte et qui a été faite non pas devant un auditoire acquis, mais dans un contexte difficile. Pierre a passé une nuit en prison et il est devant des personnes qui refusent d'entendre ce message, qui veulent le faire taire, qui veulent l'intimider, qui le menacent. Et Pierre, au lieu de se taire, au lieu de s'écraser, il y va franco et il fait cette affirmation. Et en plus, il va jusqu'à leur dire « Ce Jésus que vous avez crucifié » et il annonce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Je voudrais simplement braquer le projecteur pendant quelques minutes sur cette déclaration. Il n'y a de salut. Pierre parle sur le salut et il nous dit quoi ? D'abord, il nous dit que le salut en Jésus-Christ, il est indispensable. Pendant longtemps, lorsque je lisais ce verset, je butais sur l'expression « par lequel nous devions être sauvés ». Moi, j'aurais préféré « par lequel nous pouvons être sauvés ». Je croyais que ça collait mieux, c'était juste. Mais en déclarant ainsi, qu'est-ce que Pierre veut dire ? Il veut dire que le salut, il est indispensable. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une éventualité, c'est une nécessité. Tu as besoin d'être sauvé. C'est être sauvé, ça veut dire avoir la vie éternelle, ça veut dire recevoir le pardon de ses péchés. Et la Bible nous dit que c'est indispensable. La Bible déclare que nous sommes tous des pécheurs. Alors chez certains, ça se voit. Chez d'autres, ça ne se voit pas, ils le cachent bien. Mais la réalité, elle est là. Tous des pécheurs. Et la Bible nous dit que notre péché nous condamne. Il nous sépare de Dieu. Et nous avons absolument besoin qu'il se passe quelque chose dans notre cœur, que nous puissions être sauvés. N'oublions pas à qui Pierre fait cette déclaration. Il le dit à des religieux qui pensaient ne pas avoir besoin de repentance et de salut. Et Pierre dit, vous avez besoin de salut. Que vous puissiez être quelqu'un considéré, quelqu'un de très bien, même avec une éthique. Vous avez besoin d'être sauvé. Le salut est indispensable. Et Pierre va encore plus loin, parce qu'il nous parle d'un salut exclusif, unique. Il n'y a de salut en aucun autre. Je me rappelle, il y a quelques années, je parlais dans la rue et je distribuais quelques traités, et j'ai cité cette parole à un moment donné. Et le jeune qui me répondait, il me disait, mais c'est trop direct ton truc, c'est trop droit. Et je pense qu'il voulait dire, c'est trop exclusif. C'est vrai que ce n'est pas un verset œcuménique, hein. Ce verset nous dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'être sauvé que par la personne de Jésus. Les religions se mettent d'accord pour dire qu'il peut y avoir toutes sortes de voies. Mais la Bible ne parle pas de cette manière-là. Et ce verset, il est catégorique. Jésus est le seul chemin, la seule vérité. Il est la vie. Il n'est pas un chemin parmi d'autres. Mais il est la voie, le seul chemin. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Jésus ne parlait pas comme s'il se présentait comme une possibilité parmi d'autres. Il disait, venez à moi. Jésus disait, nul ne vient au Père que par moi. Il se présentait comme l'incontournable. Et Jésus ira jusqu'à dire, si vous ne croyez qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et puis, ce qu'il y a dans cette déclaration, c'est aussi, ça nous parle d'un salut qui est très simple. Le salut, il est simplement dans un nom. Alors, on va dire dans une personne, parce que le nom est directement rattaché à la personne. Et Pierre nous fait comprendre que pour être sauvé, je n'ai pas à parcourir le monde, je n'ai pas à faire ceci ou cela, mais simplement accepter une personne qui s'appelle Jésus. En intégrant deux paramètres essentiels sur la personne de Jésus. Le premier paramètre, il faut bien comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire le Dieu fait homme, le Dieu qui s'est manifesté en chair. Jésus n'est pas simplement un homme, il était parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. Jésus était bien un prophète, comme disent les musulmans, mais pas seulement. Il est bien celui qui a parlé de la part de Dieu, mais il est plus que ça. Jésus n'est pas un ange, comme veulent dire les témoins de Jéhovah. Il est le Dieu manifesté en chair. Un enfant se promenait avec son papa qui était pasteur. Et à un moment donné, l'enfant a posé cette question, mais dis-moi papa, pourquoi Dieu est venu jusqu'à nous? Pourquoi Dieu s'est fait homme? Et le papa était surpris de la question de son enfant et il réfléchissait. Et puis en cheminant, il a vu une fourmilière. Il a dit, bah, tu sais, pour me faire entendre à ces fourmis, je vais leur crier. Et le petit a dit, bah, papa, ils ne vont pas t'entendre, ils ne peuvent pas te comprendre. C'est vrai, tu as raison. Tu vois, si je voulais leur parler, il faudrait que je me fasse comme une fourmi. Et là, on pourrait se comprendre et s'entendre. Et il lui dira, Jésus, eh ben, c'est ce qu'il a fait. Dieu s'est rendu comme nous pour pouvoir faire entendre son message, pour pouvoir venir jusqu'à nous. Dieu s'est manifesté en chair. Et l'autre paramètre, c'est que Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, il est celui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Il est mort sur la croix et il est ressuscité afin que nous puissions être sauvés. Jésus, c'est le Sauveur du monde, mais il doit être votre Sauveur, à vous personnellement. Ce que l'on peut dire aussi, et par rapport à ce verset, c'est que ça évoque un salut initié par Dieu. Aucun autre nom qui n'ait été donné. Et ça nous rappelle quelques versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je lisais un article sur les plus gros dons qui ont été faits aux œuvres caritatives et il y avait des noms prestigieux comme Bill Gates, etc., qui ont donné des sommes assez astronomiques. Mais en regardant, j'étais quand même sceptique. Parce que déjà, on savait combien ils avaient donné, on savait qui avait été donné, donc le don était un petit peu comme un gros coup de pub, vous voyez. Et puis souvent, ils faisaient des dons importants, mais aux fondations qui portent leur nom. Jésus, il n'a pas donné une somme astronomique. Jésus, il n'a pas donné une grosse partie de lui-même, il s'est donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même. Il est venu et il a pris notre place, il a pris les risques. Il s'est livré pour nous. Et il est allé jusqu'à la croix. Il a pris cette initiative. Il savait qu'on ne pouvait se sauver nous-mêmes. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Et personne ne peut se sauver lui-même. Personne ne peut changer. Alors il est venu. Et il a rendu possible notre changement, notre transformation, notre pardon. Il est venu jusqu'à nous. Ce que ce texte aussi nous dit, c'est que ce salut, il est universel. Alors, je ne dis pas universel dans le sens où certains le croient, dans le sens que tout le monde est sauvé, tout le monde ira paradis. C'est pas ça. Mais je le dis parce que la Bible dit que Christ est mort pour tous, c'est-à-dire que potentiellement tout le monde peut être sauvé. Mais nous savons que seulement celui qui croira sera sauvé. Si je reviens sur ma pensée, il est question sous le ciel. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Alors c'est étonnant, mais ce n'est pas dit sur la terre. Nous, on aurait écrit comme ça. Mais peut-être que celui qui est sur un bateau, sur la banquise ou sur une navette spatiale, il pourrait dire, moi je ne suis pas sur la terre, je ne suis pas concerné. Là au moins, sous le ciel, tous concernés. Et personne, en tous les cas, n'est exclu du plan de salut. Je peux m'exclure moi-même. Je peux dire, ça c'est des bêtises, c'est pas pour moi. Moi je me sauverai moi-même, je veux lui rendre compte quand je sais où il existe. Je peux m'exclure. Mais Dieu n'exclut personne de son plan d'amour. Ce Dieu, il veut sauver tout le monde. Il veut sauver quel que soit l'âge, quelles que soient les races, quel que soit notre parcours, quels que soient les péchés que nous avons commis. Et parfois pour certains, l'ardoise, elle est longue. Mais Dieu veut sauver tous les pécheurs. Jésus a dit, c'est l'un de mes versets préférés, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » On peut se mettre dehors soi, mais on peut rester dehors un peu comme le fils prodigue, plutôt le frère du fils prodigue. Il a refusé l'entrée, il est resté dehors. On peut rester dehors, mais Jésus n'a pas l'intention de vous laisser dehors. Il veut vous sauver. Il veut vous amener au pardon des péchés. Et puis, une dernière pensée toute simple. Mais le salut que Jésus nous propose, il est à effet immédiat. Il n'est pas écrit « il y aura de salut ». Il n'y a, c'est du présent. Et ça veut dire que ce n'est pas quand j'entre dans l'éternité que je serai sauvé, ou une fois que je serai au ciel que je... Non, non. Alors c'est vrai que lorsqu'on est chrétien et qu'on a donné sa vie à Jésus, et qu'on meurt et on rentre dans l'éternité, on entre dans une dimension pleine du salut. On ne va plus batailler avec certaines choses. Mais le salut peut se vivre aujourd'hui. La Bible dit que celui qui croit au Fils, il a la vie. Et il est possible de recevoir la vie éternelle, le salut, le pardon de ses péchés, dans une réunion comme celle-ci, en disant, Seigneur, je crois que tu as donné ta vie sur la croix. Oui, je suis un pécheur. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je suis pire même au fond de mon cœur. Mais je crois que Jésus peut me changer. Je crois que ton sang peut me laver de tout péché. Et vous savez, lorsqu'on expérimente cela, la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Lorsqu'on dit « Seigneur, je suis un pécheur », et on sent la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu vient nous confirmer dans notre conscience que nos péchés sont effacés. Il y a un changement qui se produit à l'intérieur. Et il y a cette conviction que nos péchés sont effacés. Ça, c'est irremplaçable. Il faut absolument vivre. Alors des fois, on ne sait pas toujours mettre le mot sur cette expérience. Mais après, on sait quand est-ce qu'on l'a vécu. On l'a expérimenté et on n'est plus jamais le même. Jésus est l'auteur d'un salut parfait. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous avez besoin d'être sauvé, d'avoir le pardon de vos péchés, d'avoir la vie. Ce salut, il est dans le nom de Jésus. Il y a un texte qui dit de ne pas négliger ce si grand salut. Cet après-midi, si quelqu'un n'était pas sauvé, ne négligez pas cet appel. Tournez-vous vers lui. On va écouter encore un cantique et ensuite... on priera ensemble. Je laisse la place à Marie-Hélène.